Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 mars 1882, le jour où l'école devient obligatoire. Certes, l'école existait en France avant la Troisième République. La loi Guizot de 1833 exige l'ouverture d'une école publique de garçons dans chaque commune de France. Les filles fréquentent une école privée, souvent confiée à des congrégations religieuses. L'école publique de filles devient obligatoire avec l'Empire libéral de Napoléon III et seulement dans les communes de plus de 500 habitants. En 1866, Jean Massé et la Ligue de l'enseignement rassemblent autour de l'école un réseau d'œuvres variées et un courant de sympathie. Il s'agit d'organiser une éducation d'État neutre et obligatoire et de développer l'enseignement des filles ainsi que les cours pour adultes. Une première pétition réunit 350 000 signatures, puis une seconde près d'un million. Les masses populaires sont donc mûres pour accepter l'école telle que l'imaginent les républicains. La création de l'École de la République est l'œuvre de Jules Ferry et de Paul Bert, assisté de l'inspecteur général Félix Pecaud. L'école est gratuite. Ce principe est prévu par la loi du 16 juin 1881. Celle du 28 mars 1882 rend la fréquentation scolaire obligatoire. La liberté du père de famille est respectée par la reconnaissance des écoles privées entretenues par des particuliers ou des associations. Enfin, l'instruction donnée dans la famille fait l'objet d'un contrôle. La loi institue la neutralité de l'école publique, c'est-à-dire son indépendance vis-à-vis de toute confession religieuse. L'école est ouverte à tous, croyants ou non. La neutralité des programmes d'enseignement est aussi affirmée. L'instruction religieuse est remplacée par l'éducation morale et civique. Les écoles vaquent un jour par semaine, sans compter le dimanche, pour permettre l'instruction religieuse en dehors des locaux scolaires. La loi du 30 octobre 1886 laïcise le personnel enseignant. Complétée par les décrets et arrêtés de janvier 1887, elle constitue la charte de l'enseignement primaire. L'instituteur est nommé par le préfet. Les écoles privées sont mises au contrôle des inspecteurs qui vérifient si l'enseignement dispensé n'est pas contraire à la morale et aux lois. L'instituteur est le plus souvent d'origine modeste. Il est attaché au régime républicain. C'est un apôtre convaincu du progrès et un fervent anticlérical. Dans les campagnes, l'écolier fait parfois plusieurs kilomètres à pied pour venir à l'école. C'est pourquoi la fréquentation est fort irrégulière. L'enfant apporte son repas de midi composé de tartines qu'il mange dans le couloir de l'école ou auprès du poêle de la classe. Le buste de la République surplombe la chaise du maître. La devise républicaine est souvent prononcée. La révolution est exaltée. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est exposée dans toutes les classes et ses articles appris par cœur. Le civisme est développé et enseigné dans les cours d'adultes organisés dans de nombreuses communes. C'est pour cette école prolongée que l'inspecteur d'académie Raphaël Perrier écrit son École du citoyen qui connaît un succès retentissant. L'auteur fait revivre poésie et anecdotes à l'appui, l'histoire de France, de la Révolution à Waterloo. Dès l'âge de 13 ans, souvent même avant, l'enfant est lancé dans la vie. Le certificat d'études primaires couronne la scolarité du jeune Français. L'enseignement secondaire est l'apanage de la bourgeoisie. Pour être assuré que l'enfant ait des clartés de tout, il faut lui transmettre dès que possible tous les éléments de la connaissance. Aussi, les livres de lecture sont de véritables encyclopédies comportant un aperçu de l'ensemble des connaissances humaines. Le maître donne le goût du travail bien fait, la tenue des cahiers est impeccable, la leçon d'écriture est quotidienne, l'enseignement est imprégné de patriotisme et de revanche sur la carte de France en signe de deuil, l'Alsace-Lorraine étant violet noir. Souvent, des sujets patriotiques sont proposés en rédaction. La morale enseignée repose sur la raison. Elle est pleine d'humanité. Elle doit assurer la paix sociale et former le parfait honnête homme. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres ». Ça sera quatre livres. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est Jacques Dutronc qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1967. « On nous cache tout, on nous dit rien ».
On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron? On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres préparés par Emmanuel et que j'ai le plaisir de vous présenter. Quatre titres aujourd'hui exceptionnellement, vous disais-je, Les couleurs du destin de Mireille Pluchart, c'est dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Dans les Cévennes, la douce Sixtine rêve souvent de ne plus subir les brimades d'un père rustre et cruel. Adolescente, elle trouve du réconfort dans les bras de Jean-Baptiste, le fils des propriétaires du domaine de Soulaïdou. Mais il meurt à la guerre et en 1813, Sixtine enceinte n'a d'autre choix que de fuir. C'est dans la Providence qu'elle trouvera refuge auprès de Jaume, riche manufacturier en Indienne, conquis par son don pour le dessin et qui va l'épouser. Des années plus tard, devenue une femme respectée, l'heure de la vengeance va sonner. Les couleurs du destin de Mireille Pluchart, c'est dans la collection Terre de France, aux éditions Presse de la Cité. Toujours aux éditions Presse de la Cité et dans la collection Terre de France, les sœurs Louberzac, c'est le tome 1, né dans le domaine des Cazelles, dominant un village non loin d'Albi. Trois sœurs, Léonie, Hespérie et Rosalie, ont reçu une éducation éclairée et ont chevillé au corps la recherche de la liberté. Toutes trois, malgré leur fort caractère, ont créé une fratrie unie, mais en avril 1925, une demande en mariage inattendue vient tout anéantir et briser le cœur de la Benjamine. Pourquoi Georges, son promis, choisit-il contre toute attente d'épouser Léonie, l'aînée obéissante ? Le chagrin et l'humiliation poussent Rosalie à partir pour Bordeaux, où, préceptrice chez des aristocrates, elle découvre une vie riche de joie et de nouveautés, loin de son austère compagne. Pour Léonie, la promesse de beaux lendemains cède bientôt aux désillusions. Il s'agit donc de trois portraits et la première partie s'achève au début de la Seconde Guerre mondiale avec la mobilisation des hommes. Les sœurs Louberzac, c'est le tome 1, signé Suzanne Gacheneau dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Les deux livres qui suivent sont publiés aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Territoire au pluriel. Le premier s'intitule Le portrait disparu. Il est signé de Guillemette de la Borie en mars 1938. L'arrivée dans son immeuble des beaux quartiers parisiens d'une famille originaire de Hongrie vient faire souffler sur l'existence bien rangée d'Apolline Chamassy, 12 ans, un vent de fantaisie et de gaieté. Elle est subjuguée par Dorothée, l'aînée des enfants qui a le même âge qu'elle. Marchand d'art, le père de Dorothée a pris sous son aile un jeune peintre, Anton Drovic, exilé lui aussi, auquel l'harmonie entre les deux fillettes inspire un tableau. Les deux jeunes filles, la toile est destinée au père d'Apolline, mais la guerre éclate, dispersant les uns et les autres. Et Monsieur Chamassy, qui met les deux adolescentes à l'abri, pense-t-il dans sa famille à Montauban, n'a pas le temps d'en prendre possession. Bien des années après, Alicia, la petite fille d'Apolline, repère le tableau à l'occasion d'une vente aux enchères, comprenant des œuvres sauvées du pillage durant l'occupation. Le portrait disparu de Guillemette de la Borie aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Territoire. Et pour finir, Là où renaît l'espoir, Édouard et Reine sont des enfants de la guerre. Nés d'un père alsacien, Armand Baumann, et d'une mère lorraine, Léonie Pelletier, Édouard est venu au monde en 1939 alors qu'Armand, mécanicien automobile, était sur la ligne Maginot. Fait prisonnier, le jeune Alsacien a été aussitôt enrôlé de force dans l'armée allemande, dont il est parvenu à s'échapper. Rennes est né après des brèves retrouvailles avec Léonie en 1942, l'absence de leur père, parti rejoindre les forces françaises libres, l'engagement inconditionnel de leur mère dans les rangs de la résistance, vont faire peser sur le frère et la sœur une lourde chape de deuil, de souffrance et de non-dit. 50 ans après, Édouard propose à Rennes d'affronter ensemble les spectres du passé. Là où renaît l'espoir, d'Élise Fischer, c'est aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Territoire. Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous nous séparons en chanson avec Jacques Dutronc. Nous écoutons un autre titre de 1967, Les Cactus.
Bye. Thank you.